PH, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet, présenté par Mel JR, un mercredi sur deux sur Radio G.
Sur Radio G, vous êtes sur Pop Flash. Je suis JR et je serai accompagné aujourd'hui de Mel, mais aussi de Fanny, pour vous présenter ce 7e épisode de Pop Flash. Avant de commencer, je tiens tout de même à vous dire tout simplement bonne année, étant donné que c'est la première émission de l'année, et vous verrez que c'est une émission un peu spéciale. Dans un premier temps, vous pourrez tout simplement remarquer qu'on va avoir une toute petite chronique sur les jeux vidéo où Mel vous présentera un jeu qu'elle a découvert en 2024 et qui lui tient particulièrement à cœur. Ensuite, on aura une toute petite chronique du coup sur un manga en particulier qui me tient particulièrement à cœur. Je peux déjà vous dire le nom, ce sera Fire Force. Ensuite, on aura une petite discussion avec Fadi sur un sujet bien particulier qui nous tient encore une fois à cœur. Vous l'aurez compris, cette émission est une émission qui nous tient à cœur. Mais avant ça, je laisse la parole à ma camarade et à mon invité. Bah déjà, coucou Fadi, comment tu vas ?
Bonjour JR, bonjour Mel, merci à vous de m'accueillir et surtout bonne année à vous deux.
Bah, merci beaucoup, Mel sera là dans quelques secondes et du coup elle nous rejoindra. Mais ça me permet tout simplement, comme d'habitude, dès que Mel sera là, par la chronique Game Pop qui sera assez courte, où elle vous parlera d'enjeux en particulier. On enchaînera tout de suite avec une petite chronique Qu'est-ce qu'on lit ? Première pause musicale et on partira sur notre premier gros dossier. Les fêtes sont passées, on s'est posé beaucoup de questions et surtout du coup on s'est dit que c'était peut-être intéressant de faire tout simplement une émission dont le grand dossier serait qu'est-ce que la pop culture nous a apporté. On a préparé le sujet, alors ce sera très personnel, on va pas se mentir, mais voilà, on aura une petite demi-heure, on parlera de ça. Et étant donné que du coup Mel est de retour, déjà coucou Mel, comment ça va ?
Essoufflé, mais ça va. J'ai couru.
Respire, respire, et on peut tout de suite du coup commencer avec avec ta chronique, la chronique Game Pop qui va se lancer juste après notre tout petit jingle. Bah c'est parti et à tout à l'heure. Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Aujourd'hui dans Game Pop, on va seulement faire une petite critique de jeu vidéo parfait pour l'hiver. Imaginez un jeu où vous pouvez choisir un petit terrain avec la saison que vous préférez, puis accompagné d'une douce musique, vous construisez ce que vous souhaitez. Une maison, une forêt, un lac, un village, des ruines englouties, et etc. Eh bien ce jeu, c'est Tiny Glade. Le principe est simple, se détendre et construire. Un principe simple et pourtant, c'est très agréable d'y jouer. Dans ce jeu, vous n'avez juste à laisser libre cours à votre imagination avec les outils qu'on vous propose. J'y ai joué plusieurs heures déjà et je peux vous dire que j'aime beaucoup. C'est doux, coloré et mignon. Bien que la prise en main est un peu complexe au début, je trouve, on finit finalement par très vite s'habituer. Quel dommage de ne pas pouvoir personnaliser l'intérieur des maisons par contre, mais sinon ça reste super sympa. De plus, vous pouvez faire des photos de vos créations et c'est super bien fait, on dirait des petites maquettes, c'est trop mignon. En bref, c'est un jeu idéal pour se détendre et Game Pop, c'est fini pour aujourd'hui. Je profite pour rappeler que vous êtes sur Radio G 101.5 FM, disponible en DAB+, et vous écoutez Pop Flash et je laisse la parole à JR.
Je rebondis juste sur ce que t'as dit par rapport à la présentation de jeu, parce que Tiny Glade, j'en avais déjà entendu parler. Pour moi, c'est un truc qui est trop bien parce que ça permet de faire des maps, notamment des maps de JDR. Encore une fois, on y revient toujours,
oui.
Mais qui sont très belles. Et le jeu coûte pas très cher en vrai.
Oui, il est à 14€ sur Steam et parfois il est sur Instant Gaming aussi. Mais là, il est en rupture de stock sur Instant Gaming.
Quel
malheureusement. Fadi, tu as déjà joué toi à Tiny Glade ?
J'y ai pas joué, mais j'aime bien cette ambiance chill, posée et tout.
Ouais,
même si on fait du
vraiment...
build un peu, ça c'est bien parce que ça fait un peu balancier avec les jeux où faut juste mettre full énergie, full concentration. Donc en vrai, pour chiller un peu, ça fait penser à la même vibe que Animal Crossing en fait.
Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est vraiment juste, tu construis ta petite maison, ton petit terrain et tout, et c'est vraiment très, c'est vraiment un cozy game, quoi. Genre, t'es trop bien dedans, t'es chill, t'as une petite musique toute douce, des petits moutons qui se baladent sur le terrain, c'est trop chou.
Un jeu d'hiver.
Voilà, c'est ça.
Un petit jeu d'hiver qu'on pourrait faire sur un stream, par exemple, le matin.
Exactement.
Pour se réveiller. Mais voilà, du coup, c'est tout pour Game Pop.
Oui, c'est tout pour aujourd'hui.
Ce fut, en effet, très rapide. Mais du coup, on va se retrouver tout de suite pour la chronique Qu'est-ce qu'on lit qui sera pas aussi courte que ça et qui sera peut-être, peut-être salée. En tout cas, à tout à l'heure. Je lance la virgule et puis à tout à l'heure.
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Pourquoi ça se relance ? Et du coup, pour Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui, on va vous présenter, comme d'habitude, j'ai envie de dire, un comics et un manga. La dernière fois, je vous ai présenté mon manga préféré de all time, et là, cette fois-ci, je vous parlerai, je pense, du meilleur shonen qui est passé. Par contre, pour le comics, ouais, on va en parler. Du coup, on va parler tout simplement aujourd'hui de Lady Mechanica, qui a été écrit par Joe Benitez. C'est un comics qu'on m'a offert, je crois que c'est Mel qui me l'a offert. Et du coup, Lady Mechanica, ça parle de quoi ? Elle est l'unique survivante d'une terrible expérience qu'il a laissé avec deux bras mécaniques. N'ayant aucun souvenir de sa captivité ou de son existence passée, elle s'est construite une nouvelle vie d'aventurière et de détective privée. Elle a des capacités uniques pour agir et les autorités la laissent faire. Elle ne laisse personne indifférent et les journaux l'ont appelée Lady Mechanica. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Oh, j'ai pas aimé. Oh, j'ai pas accroché. En fait, c'est bizarre parce que je suis peut-être le seul là-dessus parce que j'en ai vu beaucoup, beaucoup de bien. Tout le monde me dit, je pouvais lire que c'était le nouveau chef-d'œuvre de Joe Benitez, que c'était quelque chose de trop bien. Mais d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qu'on t'a conseillé.
Oui, c'est ça. On me l'a conseillé, on me l'a survendu. On m'a vraiment dit que c'était vraiment incroyable, que c'était le nouveau comics à lire et tout ça. Donc moi, je connaissais pas. Je me suis dit, let's go.
Bah, en fait, le truc, c'est que quand on regarde de loin, ça a tout pour être vraiment bien, un personnage qui a l'air d'être un personnage fort, en passer une petite dose de mystère qui personnellement moi me laissait pas indifférent, en univers qui est steampunk qui est vraiment intéressant, mais c'est peut-être encore une fois que moi, vu que les gens ont l'air d'avoir apprécié, mais en fait j'ai pas réussi à accrocher. Je trouve que, comment dire, je trouve déjà que les dessins sont très sexualisés. Et aussi autant à une époque ça me dérangeait pas trop, plus ça va, plus en fait genre je souffle. L'héroïne qui est censée être super forte mais qui a une taille de guêpe et qui a des hanches qui comme dirait à une époque révolue, qui sont bien pour pouvoir se reproduire, n'est-ce pas? j'ai du mal déjà et en fait le premier tome devrait être pour moi un tome qui pourrait en fait vraiment nous mettre dans l'univers. Et j'y suis pas arrivé. J'ai l'impression que c'était brouillon. J'ai l'impression que ils essaient de nous introduire 36 trucs à la fois. Et en fait, à la fin, j'ai vraiment normalement, je vous parle de comics, ils font des centaines et des centaines de pages. Là, le comics fait 100 pages. Et quand j'en suis sorti, j'avais mal à la tête.
Oula.
Ah oui. Quand même.
Genre vraiment, j'étais en mode, là. Et puis, les clichés. Toujours les clichés. Je suis désolé, Lady Mechanica, mais je vais t'appeler Batman The Wish. T'arrives, tu tapes sur les méchants. Oh, tu les tues pas, mais tu leur fais très très mal. Et tu es très dark. On a compris. Tu es torturé. Non, sans déconner encore. Fuck it.
Les gris est de retour.
les gris est de retour et. Et voilà, j'aurais préféré ne pas peut-être pas vous en parler, mais encore une fois, malgré ça, il y a quand même des bons points. Je les ai pas trouvés. Mais vous allez peut-être les trouver, donc.
Incroyable.
Je vous pousse quand même à lire. En fait, je vous pousse à le lire, mais je vous pousserai pas à l'acheter. Allez dans votre bibliothèque. Mais après, si cette description vous a plu et que ça vous donne envie de le lire, ben vous pouvez le trouver au Repère des Héros, à la Fnac ou dans toutes vos librairies de quartier. Mais achetez autre chose. Mais voilà, non. Vous savez quoi, l'aigri va partir. Il faut soutenir le monde de la BD. C'est chez Glénat, vous pouvez l'acheter. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à m'insulter sur Discord en me disant que je suis aigri. Moi ça me va de toute façon, je ne suis qu'amour. Mais voilà, en ayant parlé, est-ce que vous avez du coup un avis sur la BD?
Personnellement, je suis pas trop hype du coup.
Ah bon? Oh putain, je m'en serais pas douté.
Bizarre.
Moi ça suscite la curiosité. C'est vrai que le fait d'avoir dit, franchement, le Batman de Wish, il m'a marqué. Si vraiment c'est ça le mot clé que tu retiens, c'est vrai que ça donne moins envie. Mais avec tout le département de Guérande que t'as mis dessus et que t'as saupoudré sur toutes ces BD, ça donne quand même envie d'aller jeter un coup d'œil pour voir pourquoi il y a autant de sel. Pourquoi autant de sel est envoyé sur cette œuvre et soit confirmé ou infirmé ce que t'as dit. Et c'est, il y a plus de curiosité que d'envie de voir l'aventure.
Oui, c'est vrai. Ça me rend curieuse de savoir pourquoi il a autant ragé dessus en fait.
Peut-être que ton sel est marketing. Attention.
Ouais. En vrai, je pense que mon sel, bientôt, je vais pouvoir poser un brevet sur.
Oui, c'est ça.
mais plus sérieusement, je pense que j'ai une réponse en fait à te donner. Je pense que c'est surtout que en fait, avant de le lire, je me suis un peu renseigné et je pense qu'on me l'a survendu et vraiment. Putain, mais je me rends compte que je suis vraiment aigri.
Ah, aussi.
En fait, je suis arrivé, en fait, j'ai ouvert la BD et vraiment la première scène, c'est elle qui tabasse des criminels, tu vois, et qui rentre en conflit avec les grands méchants qui veulent la détenir pour l'étudier, mais elle ne veut pas. Et j'étais vraiment en mode, vraiment, j'étais avec mes lunettes et là, vous ne me voyez pas, mais j'ai vraiment fait ça.
Il a baissé ses lunettes.
Non, quand même. Et en fait, tout le long, genre, j'ai plus l'impression qu'encore une fois, et ça, c'est plus, je crois, dans l'écriture de personnage, le personnage pour l'instant n'est pas caractérisé par ce qu'elle fait, mais par des caractéristiques qu'on veut lui donner. Elle est badass, elle va faire des trucs badass. C'est une victime, il va faire des trucs de victime. Je sais pas, mais en gros, je trouve que c'est une écriture qui est pauvre. Et après, c'est encore une fois, de toute façon, vous voulez lire la BD, Mel, toi, tu pourras la lire en rentrant, t'en fais pas. Et pour toi, Fadi, dans ma grande mansuétude, je t'apporterai la BD pour que tu la lises, et du coup, pour affirmer ou infirmer ce que j'ai dit. Mais voilà.
Parce que je t'ai fait du mal.
Ah
toi,
non.
Tu veux m'apporter la BD, c'est ça? Est-ce encore un cadeau empoisonné?
Peut-être que je veux du mal à mes proches, on ne sait pas. Vois ça comme un cadeau de Noël en retard.
Ah, merci.
Et bonne année.
Voilà, bonne dernière année.
Ouais, c'est ça.
Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas craché du sel, il fallait un peu. Mais du coup, on va passer tout de suite à la deuxième œuvre. Et je vous rassure tout de suite, là, c'est une œuvre que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. On va parler de Fire Force, qui est du coup de Atsushi Okubo. Atsushi Okubo, qui est aussi connu pour un autre grand manga qu'il a fait, qui est Soul Eater. On parlera de Soul Eater un jour si vous voulez. Soul Eater, c'est un manga de cœur aussi. C'est pas mon manga préféré, mais c'est un manga de cœur. Et du coup, Fire Force, de quoi ça parle? Le monde est horrifié par un phénomène de combustion humaine où l'humanité peut s'enflammer à tout moment. Des brigades spéciales Fire Force ont été créées et ont pour mission d'éclaircir en fait le mystère de ce phénomène et surtout de lutter contre ça. Ensuite, le jeune Shinra Kusakabe, surnommé le démon, qui vient d'intégrer la 8e brigade dans le seul but de devenir un héros et de connaître la vérité sur l'insolite qui a coûté la vie à sa famille il y a 12 ans. Est-ce que j'ai apprécié? Encore une fois, je vous ai spoilé avant, mais pour moi, je pense que c'est le meilleur shonen qui est sorti ces 10 dernières années. Oui, les mots sont forts, mais les mots sont justes. Il faut savoir que du coup, ça a aussi été fait en animation. D'ailleurs, une nouvelle saison va bientôt sortir. Et que le manga s'est terminé il y a maintenant, je pense, environ 6 mois. Et que c'est une fin qui est... Et c'est assez rare pour qu'on le dise, c'est une fin qui est bien, c'est une bonne fin. Ça nous fait découvrir quelque chose dont on n'aurait pas pu se douter à la fin. Évidemment, je ne le dis pas parce que comme moi, quand je l'ai appris, j'ai mis mes deux mains sur la tête, je fais « Oh le bâtard !» Mais voilà, du coup...
Tout est sincère.
100% sincère. Mais pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que déjà, c'est une histoire qui est originale. Bon, déjà... être en pompier, c'est quelque chose que de base est quand même assez badass, on va pas se mentir. Ils ont réussi à le rendre encore plus badass. Je trouve que encore une... ah, là pour les dessins, je vais être plus mesuré. Dans le sens où Okubo a un dessin qui est très particulier et qui est très marqué, on va dire. Soit on accroche, soit on n'accroche pas. Moi, personnellement, j'ai beaucoup accroché. C'est un dessin qui, moi, souvent me fait penser à des dessins qu'on pourrait retrouver, tu sais, dans des croquis ou dans des dessins qu'on ferait là comme ça. C'est les paysages sont, ah, je sais pas comment je pourrais le dire, mais en fait, ils sont à la fois très, très reconnaissables, mais très simples aussi. Et surtout, on va avoir beaucoup de planches, un peu comme dans Bleach, où ce sera des gros plans sur les personnages qui vont nous faire en fait tout simplement avoir certaines émotions, mais qui seront magnifiées par ce dessin particulier où on accroche ou on n'accroche pas, parce que j'ai l'impression que, alors c'est dans les deux mangas que j'ai lu de lui où j'ai beaucoup accroché, que le sujet de la folie est vraiment au centre de ce dessin. On va avoir des gros plans sur les yeux qui vont être très dérangeants, on va avoir des gros plans sur, là les personnages vont parfois avoir des postures qui vont être dérangeantes, on va avoir certaines planches qui pour moi sont des chefs-d'œuvre, mais qui, encore une fois, vont être dérangeants, parce que on va voir les personnages se tendre dans différentes positions. C'est pas comme dans Jojo Bizarre Aventure, ou c'est pas comme dans Bleach, où tout est très détaillé, et en fait, les personnages sont beaux. Là, les personnages, bah, je suis limite tenté de dire qu'ils ne sont pas beaux, en fait. Ils sont caractérisés par leurs besoins, par leurs instincts primaires, et quand tu vois ces gros plans sur ses yeux, où t'as l'impression que l'œil va sortir de la planche pour venir se coller à toi, voilà, ça peut être dérangeant, mais ça marche. Et c'est pas que ça qui est bon là-dessus, c'est que l'histoire est bonne. L'histoire, bon, évidemment, c'est pas son premier manga, donc l'histoire est maîtrisée du point A au point Z, et tout s'enchaîne comme comme dans une bonne série. Et on a cette impression de satisfaction quand tu vois les personnages évoluer, quand tu vois en fait tout et que tu découvres de nouveaux personnages. Les méchants, on va parler de tous les méchants, et j'adore Omea, qui est un très bon méchant. J'adore tous les personnages qui sont pas spécialement manichéens et qui vont donner du coup sur le grand final, dans lequel, où je préviens tout de suite, hein, je ne dirai pas qui, mais il va y avoir pas mal de morts, et notamment certaines réponses qu'on pouvait se poser dans d'autres trucs qui auront du coup c'est frustrant de pas pouvoir tout dire.
Attention, mais si tu spoiles, hein, non, parce que moi je veux pas savoir.
Je vais pas spoiler, mais voilà, il y a des combats qui sont titanesques et qui restent gravés dans notre mémoire, tout simplement. Et le système de pouvoir, je le trouve très bien trouvé. Bon, déjà le fait que des pompiers se battent en utilisant le feu, bon, moi j'aime bien. Il y a un truc, c'est pas en spoil parce que je ne dirai pas quand ça se passe, mais en gros c'est en combat entre deux personnages qui sont considérés comme des snipers dans le milieu. Et t'as vraiment genre, j'explique juste après le système de pouvoir. Mais en gros c'est des pouvoirs de deuxième génération, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas créer de feu, mais ils peuvent le contrôler. Et du coup, t'as une archère contre un mec qui se bat avec un flingue, et t'as vraiment genre le mec qui se bat avec un flingue peut rendre en fait une explosion beaucoup plus violente. Et le but, c'est qu'il prend, il a du coup son flingue, et genre il change de canon à chaque fois, et à chaque fois qu'il tire une balle, bah c'est décrit dans le manga comme deux tanks qui se tirent dessus. Et tu vois genre le canon qui s'explose, il retire le canon, il le remet. Et alors en animation, c'est grotesque, mais même en dessin c'est parfait. Du coup, étant donné qu'en plus c'est une série qui est terminée, soit vous achetez les livres un par an, on peut les retrouver Repères des héros, Azumanga ou Fnac, encore une fois, soit je sais que souvent ce qui est fait pour ce genre d'œuvres qui sont des œuvres mythiques, on attend que les intégrales sortent, et ça peut être une bonne chose parce que on va en reparler, mais les intégrales, c'est tout simplement quelque chose qui permet d'avoir des très bonnes, des très très bonnes, des très belles ouvrages. Je fais ça notamment pour Fullmetal Alchemist, dont j'ai parlé il y a deux semaines, qui est du coup mon manga préféré. Et pour Soul Eater aussi, il y a une très belle version de Soul Eater qui est en train de sortir. Alors n'hésitez pas à la trouver chez Azumanga, au Repère des Héros ou à la Fnac. J'ai dit que j'allais parler du système de pouvoir, mais en fait je ne vais pas le faire, comme ça vous allez lire le manga et vous allez faire quelque chose.
Il a teasé.
Bravo.
Et voilà, du coup je rappelle juste que vous êtes sur Radio G 101.5 FM et que vous écoutez Pop Flash. On va tout de suite se retrouver pour une fois sur une petite musique qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai fait pression sur Mel pour pouvoir la mettre. On va du coup écouter Pentakill, qui est du coup le groupe de metal de LOL, et on va écouter Blade of the Ruin King. Je vais y arriver. On se retrouve juste après ça. Des bisous et à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Oh,
entendre encore la musique en arrière-plan, mais c'est juste du coup du teasing parce qu'on va l'arrêter là. Si vous voulez écouter en entier, vous pouvez toujours aller sur YouTube. C'est de la très bonne cam, donc n'hésitez pas. Et sur ce, j'avais oublié quelque chose, et du coup, je vais poser tout de suite la question. Est-ce que, est-ce que Fire Force, du coup, ça vous a tenté? On va commencer par Fadi, du coup.
Moi, je connaissais déjà, pour une fois, mais c'est pas une découverte. Je connaissais déjà, alors comme je disais pendant la pause, je sais plus si j'ai commencé l'animé ou si j'ai commencé à lire le manga, mais j'ai des images en tête et j'ai l'univers. Et justement, je trouvais que l'univers dans lequel on arrive était très beau. C'est le souvenir que j'en ai, parce que ça fait un moment que j'ai fait mon début. Mais j'ai trouvé ça très très beau, très profond. Et donc, bon, j'ai un beau souvenir. Et là, avec ce que t'as expliqué, surtout le système de pouvoir, ça donne vachement envie de, parce que moi, je suis très pouvoir. Moi, je suis très 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 pouvoir dans, moi, tu me dis pouvoir quelque part, je suis. Et donc là, c'est un truc pour voir, ce qu'il y a et comment ça se passe. Et puis, bah, le teasing que t'as fait sur aller lire pour voir comment on obtient les pouvoirs, bah, ça a fonctionné pour moi. Donc, ouais, moi, hypé.
Ok. Et toi?
Bah, moi, j'avais vu l'animé. Effectivement, le manga, tu sais que les shonen en manga, j'arrive pas à les lire. Et en plus, effectivement, la patte graphique du dessinateur, enfin, du mangaka, est assez spéciale. Mais, effectivement, j'ai vu l'animé et l'animé est incroyable. Donc, ouais, je suis tentée. Peut-être que j'essaierai de lire les mangas.
Ok, bah parfait. C'était la fin du coup de Qu'est-ce qu'on lit, et on se retrouve tout de suite pour Pop and Clap. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Action, émotion et un peu de popcorn. Bienvenue dans Pop and Clap.
Si je vous dis on en a gros, ou le gras c'est la vie, ou bien encore c'est pas faux. Est-ce que vous reconnaissez ces phrases cultes? Que la réponse soit oui ou non, eh bien je vous propose qu'on parle de cette série qui n'est autre que Kaamelott. Je vais essayer d'être concise, mais j'ai un réel amour pour cette dernière. Kaamelott diffuse ses premiers épisodes sur M6 en 2005. Le principe de base de la série est simple, des sketchs humoristiques de quelques minutes seulement, centrés sur l'histoire de la légende arthurienne et de la recherche du Graal. Avant de passer à mon avis, il faut que je vous dise deux choses. D'abord, j'ai regardé la série entièrement il y a seulement quelques années. Quand j'étais jeune, je ne comprenais absolument pas la hype et l'engouement autour de cette série, et c'est pour ça il y a plusieurs raisons. Premièrement, quand la série passait à la télé, les épisodes étaient diffusés n'importe comment. Il n'y avait absolument aucun sens, et du coup, je ne comprenais rien à l'histoire. Et deuxièmement, je pense que j'étais trop jeune pour comprendre certaines blagues et pour lire entre les lignes invisibles de la série. Mais j'ai la chance de vivre avec JR, qui apprécie beaucoup Kaamelott. Alors quand il a appris qu'un film allait sortir, il était fou de joie. Moi, j'étais là en mode, ouais, bof, hein, ça va pas me plaire, et blablabla, film français, gna gna gna. Et puis, j'ai commencé à regarder des édits sur YouTube de Kaamelott, et je me rends compte qu'il y a en fait quelque chose de profond. Alors je décide de commencer à regarder la série. Au début, c'est seulement des sketchs, avec un humour légèrement grinçant. Puis, tel un fil rouge, l'histoire se met en place. Les épisodes deviennent plus longs, plus sérieux et plus sombres. J'adore cette série, car elle montre à quel point la pression sociale, la pression des responsabilités peut rendre fou un être humain. Arthur, l'un des personnages principaux, est un homme torturé et complexe. Au début, je l'aimais pas car je trouvais qu'il était méchant avec Guenièvre et avec d'autres personnages. Mais petit à petit, en fait, on finit par s'attacher. Et bien sûr, les personnages sont extrêmement bien écrits. Le développement personnel de Guenièvre est incroyable. Perceval est un de mes personnages favoris également. Et cette série, elle est drôle, touchante et vous prend aux tripes. Surtout les deux dernières saisons, on va pas se mentir. La saison sur la jeunesse d'Arthur incroyable, mais je ne vais pas parler du film aujourd'hui car on n'a pas le temps, mais j'en parlerai pour la prochaine émission. Mais en tout cas, Kaamelott, c'est plus que ce qu'on pense, ce n'est pas seulement des sketchs, c'est aussi une histoire qui est vraiment prenante et incroyable. Toi, JR, du coup, Kaamelott, je sais que tu adores. Fadi, tu connais Kaamelott?
Ouais, je connais. Alors, comme toi, je n'ai pas saisi l'engouement qu'il y avait quand c'est sorti et qu'on le suivait toutes et tous quand on était plus jeunes. Ouais. Mais pareil, avec du recul, moi, je n'ai pas fait toute la série, je n'ai pas encore vu tous les films, j'ai vu le premier seulement. Moi, j'ai appris à aimer l'histoire plus que l'humour. Mais par contre, avec le recul, j'ai vu que ça a révélé Alexandre Astier. et surtout sa plume incroyable. Et donc je pense que les messages cachés dont tu parles, avec du recul, on les perçoit mieux, mais ce mec, c'est un génie.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alexandre Astier est un génie, genre vraiment. Et puis le mec, il fait ses propres musiques dans Kaamelott, c'est lui qui les fait, je crois. Il joue, il réalise, il écrit. Le mec est vraiment incroyable, genre...
Multitâche.
Ouais, multitâche. Non mais vraiment. Et du coup, toi, JR...
Moi, je déteste Kaamelott, c'est pareil.
Ouais, c'est ça.
Le faux <fossile. rire>
Vous avez un personnage préféré dans Kaamelott?
C'est compliqué.
Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, Les Pouvoirs et moi, ça fait un. Donc, Merlin. Merlin, il me fait beaucoup rire. Parce qu'il est très maladroit aussi.
Mais Merlin, il est très très bon. Je dirais, alors je suis pas. J'aime bien le duo Caradoc-Perceval. Pas Caradoc, mais j'aime beaucoup Perceval et je déteste Lancelot.
Ouais. Moi, c'est Guenièvre, vraiment ma top 1. Ensuite, c'est Arthur et Perceval. Caradoc, il est tout en bas de la liste. Je le déteste avec sa femme, là.
Il y en a un autre qui me fait rire, moi. Je sais plus si c'est le cousin d'Arthur. Un gars en vert, le moine. Un moine en vert, je crois.
Je vois qui c'est. J'ai plus.
Il est très grand. J'ai perdu son nom. Et il est, je crois, conseiller du conseiller
d'Arthur. Ah, Bohort.
Voilà, lui.
Ah oui, c'est le cousin de Lancelot. J'adore Bohort aussi.
Il parle
aussi.
Pas beaucoup, mais quand il parle, il lance des punchlines, mais des trucs un peu abrutis. Il a l'air sot un peu quelquefois. Des fois, ça me fait.
Ouais, mais Bohort, c'est un mec ultra touchant. Il est trop mignon, je trouve.
après, je sais qu'il y a aussi un autre perso que j'adore, moi, c'est le roi Burgonde.
Ah oui, j'avoue, les furgons.
Oui. Bah là, on a vu, après, en partant de là.
Tous les personnages sont incroyables. Voilà. Et c'est pour ça qu'Alexandre Astier est un génie, en fait.
Trop fort.
Il fait que des personnages incroyables, en fait. Mais voilà, c'est fini pour Pop and Clap.
Ah oui, c'est fini pour Pop and Clap. Bah, du coup, on va tout de suite se retrouver pour le bric-à-brac et pour notre gros dossier. À tout à l'heure.
À tout de suite. On met pas une deuxième musique.
Quiz, blind test et surprise, bienvenue dans le bric-à-brac avec Mel et JR. Et du coup, notre gros dossier, aujourd'hui, c'est le premier du coup d'une longue série j'espère, ce sera tout simplement comment est-ce que la pop culture nous a influencé ou nous a touché au sein de notre existence, on va le dire tout ça, et ce sera un peu une parole libre que ce qu'on fait d'habitude. Et on va peut-être pouvoir commencer déjà. La vraie question, c'est à partir de quand vous avez commencé vraiment à vous intéresser à tout ce qui va être, je vais dire, film, série, manga, ou pop culture en règle générale. Mais voilà, Fadi, tu sais quoi, on va commencer par notre invité.
Génération 90, entre 90 et 97, un truc comme ça. Moi, je suis né en 94. Dragon Ball, Club Dorothée en fait. Club Dorothée, c'était avant moi, c'était pour mes aînés, mais moi j'ai vu un peu la fin du Club Dorothée et surtout l'arrivée des mangas en France. J'ai eu la chance de regarder la télé à ce moment-là, d'avoir une télé, de pouvoir regarder la télé à ce moment-là. Et vraiment Dragon Ball, quand ça a démarré, franchement ça a ouvert la porte de la pop culture avant les jeux vidéo, avant la lecture des mangas, avant les séries, etc. Ça c'est vraiment le truc que je chéris, je chérirai jusqu'au bout et que je suis comme un invétéré jusqu'à maintenant. Donc Dragon Ball, mon premier grand pied dans la pop culture.
En plus, le Club Dorothée, très bon sujet. En plus, le Club Dorothée, vu que toi, t'en as vu la fin et t'as vu du coup aussi le début de toutes les polémiques un peu débiles qu'il y avait autour des mangas, tout ça, en fait.
Je suivais ça de loin. J'étais plus un grand consommateur. Okay. Je mangeais de la télé à rallonge et surtout des animés, genre les dessins animés à la française entre guillemets, tout ce qui passait sur France Télévisions. Ça, je regardais moins. Mais Détective Conan, Dragon Ball, Naruto, Power Rangers aussi,
les vrais
qui n'est pas français, les vrais. Mais beaucoup Nippon. Quand le Japon est arrivé en France via ces productions-là, moi j'étais à fond dedans.
Ok, et toi Mel du coup ?
Alors moi, c'est tout con, c'est tout bête. La première fois que j'ai eu un pied dans la pop culture, c'est quand je regardais Midi les Zouzous. Ah. Est-ce que vous connaissez Midi les Zouzous?
Ah oui.
Voilà, sur France 5, je regardais ça le midi en fait, quand je mangeais avec mes parents, ils me mettaient ça et puis il y avait Princesse Sarah qui était un dessin animé de l'enfance de ma mère et du coup elle était fan, alors elle regardait avec moi et puis on mangeait en regardant Princesse Zara, Les Malheurs de Sophie et tous ces petits animés. Il y avait aussi Le Pays de Candy, Rémi sans famille et tout ça. Et puis après il y avait les animés de TF1, il y avait Les Tortues Ninja, je sais plus après, après tout ce qui est Bob l'Éponge, etc. Et puis après il y avait aussi les séries KD2A aussi, je sais pas si vous connaissez.
Putain, ça date, ouais, ça date. Un bond dans le temps là.
Donc je regardais KD2A avec Lizzie McGuire, des trucs comme ça, H2O, voilà. Et puis des fois j'alternais avec France 3 pour regarder je sais plus par contre comment ça s'appelle. Maintenant c'est Ludo, je crois que ça s'appelle.
Ouais.
Mais à l'époque je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était avec Code Lyoko je sais plus comment s'appelle le reste, mais ouais je regardais tous ces genres de trucs et c'est ça qui m'a permis en fait de m'ouvrir dans la pop culture, sachant que j'ai une maman qui est assez cinéphile et qui regarde pas mal de séries, notamment par exemple La Petite Maison dans la Prairie. C'est tout con, mais ça aussi ça fait partie de la pop culture.
Oui.
Et on a du mal à se rendre compte que des fois il y a des trucs de notre enfance, c'est de la pop culture. Et La Petite Maison dans la Prairie, c'est sûrement une des premières séries que j'ai regardées avec ma maman. Dr. Quinn, je sais plus comment elle s'appelle, oui c'est ça, Dr. Quinn aussi. Et c'est que des séries que je regardais qui passaient à la télé et que je regardais avec ma mère, parce qu'en fait c'était des rediffusions que ma mère regardait quand elle était jeune elle-même. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai pu m'ouvrir un petit peu sur le monde de la culture, etc. Et puis après vers mes 12 ans j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un truc qui s'appelait les mangas. Et quand j'ai vu ça, il y avait une librairie dans mon petit village qui avait tout un mur de mangas. Et ma mère m'a dit choisis celui que tu veux. Et moi j'ai pris Fruit Basket. Voilà, premier manga que j'ai lu c'était Fruit Basket. Je l'ai pris, j'ai adoré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier les mangas aussi. Voilà, c'est le début
d'une longue route.
En vrai, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce soit juste nous trois, parce que du coup, je vais parler de moi juste après, c'est des manières très différentes en fait de se lancer dedans. Il faut savoir que du coup, j'ai grandi toute ma jeunesse au Canada, du coup, et du coup, j'avais pas accès à tout ce qui était Club Dorothée et tout ça, malheureusement. Mais j'ai eu la chance d'avoir
le VPN.
Ouais, le VPN. J'ai entendu parler de NordVPN. Non, mais d'avoir un père qui était très cinéphile et surtout d'avoir une mère qui était très portée sur le jeu vidéo. Alors, très porté sur le jeu vidéo rétro déjà même à l'époque, mais je me souviens de moi tout gosse avec notamment une Nintendo 64 ou une Game Boy Color, et ça a été ça mon premier pied dedans, notamment à jouer à Mario, à Zelda, au premier Mario, au premier Zelda, ou à un jeu de course sombre qui s'appelle les Coccinelles. où littéralement t'es dans une coccinelle, une voiture coccinelle, et faut que tu fasses ça. Et c'était, j'en ai des très bons souvenirs. Puis il y a eu évidemment les dessins animés. Bon, alors surtout des dessins animés américains. J'ai Martin Mystère.
Ah bah oui.
Martin Mystère, Code Lyoko, j'avais aussi. Et après, je pense que mon premier film qui m'a fait me dire oh putain, vous savez le petit mème où c'est à ce moment-là où le petit JR compris qu'il aimait bien le cinéma.
Oui.
Ça a été en regardant l'épisode 3 de Star Wars avec mon père.
Ah, ok.
J'étais assez jeune et je suis très vite tombé dedans, et à partir de là, j'ai commencé à lire des BD. J'ai pas tout de suite découvert les Simpsons parce que ma mère disait que c'était obscène. Du coup, compliqué.
Bah oui.
Et après, je suis arrivé en France et encore une fois, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle les mangas. Notamment en tout premier, Naruto. Naruto, il faut savoir que je faisais des petits travaux. Papa, si tu entends ça, fais pas gaffe, mais des petits travaux, on va dire, non déclarés auprès des voisins pour couper la pelouse, pour pouvoir aller m'acheter des mangas. Et du coup, j'ai acheté des mangas. J'ai acheté beaucoup de mangas, puis j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux jeux vidéo, vu qu'on avait un ordinateur là-bas. J'ai une Xbox, et de là, j'ai envie de dire, c'est parti en couille. Mais du coup, deuxième question, je dirais, est-ce que, bon, je suppose que vous ne regrettez pas d'être tombé dedans, forcément, surtout aujourd'hui, mais comment vous avez vécu, on va dire, l'évolution de la pop culture? J'enchaîne, hein, comme ça, peut-être que vous êtes plus simple. Merci. Disons que, je parle de mon expérience, je sais que quand je suis tombé dans la pop culture, évidemment, ça m'a rapproché de certaines personnes et ça m'en a éloigné d'autres. Il faut savoir que, je sais pas s'il y a des personnes jeunes qui nous écoutent là aujourd'hui, mais il faut savoir que être considéré comme un geek à l'époque n'était pas spécialement bien vu. Une des choses que j'ai découvert en pop culture, c'est notamment Magic, qui m'a permis de me faire beaucoup d'amis, dont des amis que je connais encore aujourd'hui. Coucou Geoffrey. J'ai pu voir cette évolution en fait de la vision qu'avaient les gens en fait des mangas, d'abord des mangas, puis du reste de la pop culture. Faut voir quand même que les mangas ont très vite été acceptés, j'ai l'impression, par notre génération. Vous faisiez partie de quoi? Comment est-ce que la pop culture vous a aidé ou vous a desservi peut-être dans la vie? Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver. On va reprendre là, du coup, de nouveau Fadi. Hein.
Bah, moi, dans mon cas, j'ai pas fait de rencontre grâce à la pop culture. En tout cas, quand j'étais plus jeune, je m'adaptais un peu aux gens. Je lançais des sujets, des fois, où je voyais, et puis je voyais comment les gens réagissaient. Mais je gardais surtout tout ce nouvel univers que je découvrais et que je continuais à alimenter pour moi, en me disant, c'est mon cocon, je kiffe mon truc. Et je suivais Goku, mon meilleur personnage, tout au long des années où il y avait vraiment plus de la production tout le temps, plus les jeux vidéo. Et au fur et à mesure des classes dans lesquelles j'ai été, des personnes que j'ai rencontrées, j'ai pu matcher des rencontres. Mais moi, je suis une personne qui attend d'abord avant d'aller vers. Et quand une personne disait ouais, est-ce que toi tu joues un peu à des jeux vidéo, je disais oui, vite fait, alors que finalement en parlant je bouffe de la console à longueur de temps. Donc moi ça m'a sur les rencontres, ça m'a pas servi. Par contre, moi-même, pour me forger, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup servi. J'ai vu récemment le terme qui a été très utilisé, que j'ai redécouvert là, de Kaizen.
Oh putain, oui.
Avec le documentaire d'Inoxta qui est sorti, hein, Kaizen, qui veut dire, c'est ce truc que les animés classiques ont de, on se dépasse, on fait un groupe tous ensemble et on va tous ensemble pour être plus fort qu'hier. Et en fait, ça, c'est ce que ça m'a apporté, principalement Dragon Ball, mais aussi les jeux vidéo, les différentes histoires, les mangas que j'ai lus, les séries que j'ai suivies. Ce truc de, ok, dans l'histoire que c'est raconté, le gros truc, c'est, ok, si hier c'était pas performant, c'est pas grave, continue. Du coup, ça m'a motivé à faire de mon mieux tous les jours, jusqu'à ce que mon corps me dise, tu n'es pas dans un animé, à un moment donné, stop, repose-toi. Mais ça m'a aidé à toujours performer de plus en plus. Et donc ça, c'est pour la partie des mangas et des animés, de tout ce qui est littérature et œuvre à consommer. Par contre, les jeux vidéo, au-delà des histoires, alors ça m'a beaucoup appris sur l'histoire. Tout court.
Oui.
L'histoire, la culture nippone, mais aussi tous les Assassin's Creed, j'ai énormément appris à travers ça, plus qu'en cours. Et surtout, ça m'a appris des compétences de vie. La patience, la force mentale, l'énergie des doigts pour pouvoir rester concentré, la stratégie, la réflexion, la recherche, beaucoup de choses qui me servent encore aujourd'hui dans mon métier. Et donc moi, je remercierai tous les jours et jusqu'à la fin de mes jours tous ceux qui ont créé ce qui a fait la culture dite geek et qui nous a permis à nous geeks d'être des personnes très compétentes, je trouve, aujourd'hui, parce qu'on a eu deux cursus parallèles entre le cursus scolaire et notre cursus à nous. C'est ce que je trouve. En tout cas, merci les geeks d'avoir existé, de toujours
merci
exister.
Merci les geeks. Ouais. Vive les geeks.
Ouais, les geeks. Ouais,
voilà. Bravo les geeks.
Et du coup, toi-même?
Alors moi, c'est oui, j'ai pu faire des rencontres grâce à ça, mais beaucoup plus tard. Faut savoir que moi, dans ma famille, les jeux vidéo, etc., autant tout ce qui est manga, animé, tout ça, c'était plutôt bien toléré, même les séries, enfin bref, voilà. Mais tout ce qui était jeux vidéo, mes parents sont pas trop au fait de tout ça. Et ma première console à la maison et les premiers jeux vidéo que j'ai eus, c'était la Nintendo DS, la toute première Nintendo DS qui est sortie.
C'est tard.
Ouais, c'est super tard. Et en fait, j'ai joué à Pac-Man et aux Sims, c'était les Sims 2, je crois. Voilà, sur Nintendo DS. C'est les deux seuls jeux que j'avais pendant très longtemps. Après, quand j'allais chez ma cousine, c'était spécial, elle avait une Xbox One, une Xbox 360, pardon.
Oh, la meilleure des consoles.
elle avait une Xbox 360, alors je pouvais jouer, on jouait toutes les deux à Fable parce qu'elle était un peu plus grande que moi, donc j'avais le droit de profiter de Fable, etc. Mais sinon, j'ai pas eu beaucoup de jeux vidéo dans ma vie de jeune. Par contre, à partir du moment où je suis rentrée en cinquième, j'ai eu un ordinateur. Et là, ça a tout changé et j'ai rentabilisé. voilà. Et du coup, moi, j'ai beaucoup consommé de MMORPG surtout.
Le piège,
ouais. Et je suis tombée là-dedans beaucoup. Et là, par contre, à partir de ce moment-là, j'ai fait des rencontres en ligne, de très bonnes rencontres, de très mauvaises rencontres aussi. Ça dépend. Il faut faire attention. Mais à l'époque, on n'était pas trop au fait. Mais ouais, après, ouais, du coup, à partir du collège, j'étais considérée par les gens du collège comme la geek, machin. Mais ouais, et puis j'ai découvert League of Legends aussi. Voilà, à cette époque-là.
Le deuxième piège. Ouais.
Mais ouais, j'étais sur surtout sur des MMORPG qui existent même plus maintenant, genre Never Seven Core, je crois. Ça n'existe plus. J'ai joué à Guild Wars, j'ai joué à Neverwinter. Plein de jeux comme ça, ou aux versions craquées, quand à l'époque on pouvait le craquer encore facilement. Mais ouais, donc voilà. Et puis ça m'a apporté énormément. Et en fait, je pense que effectivement, comme Fadi, ça m'a forgé aussi dans mon adolescence. Ça m'a permis de me développer, les mangas aussi, les animés, etc. J'ai pu m'identifier à certaines personnes, j'ai pu m'identifier, et c'est ça qui est bien en fait, et c'est ça qui m'a apporté le plus, je pense, dans la pop culture. Et les jeux vidéo, bah forcément, ça permettait de m'évader quand j'allais mal. Et donc je passais des heures entières sur les MMORPG.
Bah plus ou moins.
Non, je oui.
Oh.
Allô.
Vas-y. Vas-y.
Bah non, mais je voulais relancer un truc, mais je sais pas si.
Non,
pas,
vas-y,
si
vas-y,
pas.
Vas-y.
Ah, tu peux, vas-y.
En fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Mel, dans ce que ça nous apporte en termes de forge. Je me dis qu'on a peut-être, nous consommateurs de la pop culture et de la culture geek, cet avantage, ce que je vais qualifier d'avantage, d'être de meilleurs adultes. Dans le sens où nous, justement, comme on était à fond dans notre bulle, entre guillemets, à consommer ce qu'on consommait, on s'est pas préoccupé à tous les problèmes de collégiens, de lycéens, les gnagnagnas, les chamailleries, etc., que toutes les personnes ont eu. Alors, ça, pour les bonnes ou mauvaises raisons, on s'en fout, c'est pas l'idée. Mais ce qui nous a permis à nous, maintenant, en tant qu'adultes, de se dire, bah, moi, c'est bon, je vois la vie d'un autre côté, et quand il y a un souci humain, bah, je peux le régler, et je suis pas à 30 ans, 35, 40, en train de me chamailler avec la personne d'à côté, juste parce qu'elle m'a mal regardé. Ça va, moi, j'ai d'autres valeurs que j'ai appris pour le coup grâce aux jeux vidéo, grâce aux jeux en ligne, grâce aux différentes rencontres. Je sais pas ce que vous en pensez.
Pardon, excuse-moi, vas-y.
Non, je suis plus ou moins d'accord. Après, je vais y mettre une nuance parce que je sais que personnellement, même si j'ai appris à gérer autrement, quand j'étais dans un lycée de banlieue, dans un collège et un lycée de banlieue, et disons qu'il y avait une tripotée de cassos qui s'amusait j'ai une anecdote, hein. J'ai une anecdote où un mec, on jouait à Magic, et le mec arrive et prend nos cartes et erreur monumentale, hein, genre à l'époque je faisais déjà 1m80 et mon pote était connu pour être un petit nerveux. Et le gars arrive et il décide tout simplement de prendre nos cartes et de les déchirer devant nous.
Ah. Oh, putain.
Bon, ça s'est fini comme ça s'est fini.
Il est enterré où?
C'est un peu ça, je pense.
Et du coup, oui, on a appris, mais encore une fois, je dirais qu'on se chamaille pas pour rien, mais que il y en a peut-être certains qui ont peut-être moins appris, du coup, peut-être à gérer leur colère aussi. Mais après, encore une fois, je rebondis et je rejoins ce que vous dites. Je pense que ça m'a personnellement beaucoup aidé aussi à voir les choses peut-être différemment, mais. Je cherche mes mots, désolé. Oui, encore une fois, ça nous a permis de voir ça. Et je pense surtout que plus que ce que tu as dit, même si je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, ça nous a peut-être aussi permis de nous rendre compte, nous, que l'école, c'est très important. Aller à l'école, travailler bien, c'est important. Les études, c'est important. Mais que pousser, si un jour on a des gosses ou peut-être, là, si les enfants ont une passion, ça peut être une bonne chose aussi de les pousser vers leur passion, que ce soit le dessin, que ce soit le chant ou autre, parce que justement, il y a cette optique de bah, ça va être dur, mais c'est pas grave si c'est dur, à la fin, tu y arriveras et tu arriveras à faire quelque chose de ta vie, et c'est pas grave si t'es différent. Et que tu puisses en fait faire autre chose, et que peut-être qu'on avait moins aussi à notre époque parce que bah, nos parents n'ont pas connu ça et qu'ils étaient plus en mode bah, si t'as pas d'études tu finiras comme le monsieur dehors, et que le monsieur dehors bah, t'as pas envie de finir comme lui parce que bah, c'est pas bien. Je continuerai même là-dessus pour dire que pour les personnes qui étaient, on va dire, font partie peut-être de minorités, les mangas et les jeux vidéo, moi, m'ont permis d'avoir des modèles que je n'avais pas spécialement à la télé. Je le répète souvent, mais je suis quelqu'un qui est métis, enfin noir de peau, quoi. Et on n'avait pas, dis-moi si je me trompe, Fadi, évidemment, parce que je crois que ça te touche aussi.
Je crois.
À vérifier.
Ça te touche aussi, il a touché. Je crois que t'as entendu le même truc que moi,
mais je suis pas sûr. Hein. Mais au cinéma, à l'époque, on n'avait pas trop de représentations sur lesquelles on pouvait se dire ça. Et même si parfois c'était des représentations qui étaient un peu limites dans les mangas, bah on en avait quand même. Et bon, moi encore une fois, ma Madeleine de Proust pour ça, c'est Bleach, parce que Bleach avait des personnages qui étaient des personnages noirs qui étaient excellents. Et enfin ça c'est un autre sujet à débat, mais je sais qu'il y a notamment dans My Hero Academia, il y a des personnages qui sont noirs de peau, qui sont des très belles représentations. Et ben le dernier gros drama que j'ai eu qui s'est fait, c'est parce que Mirko c'est un héros professionnel, une héroïne professionnelle noire de My Hero Academia, et il y a eu un crossover entre My Hero Academia et Marvel, et le dessinateur de Marvel a décidé de la blanchiser.
Ah, et ça a créé une polémique.
Ça a créé une polémique au sein de la communauté africaine, mais par contre, genre, encore une fois, bah, il y en a d'autres qui ont dit, bah, c'est bon, c'est pas grave, personnage de fiction, mais ça, c'est pas le. Je pense que vraiment, la pop culture nous permet d'avoir des représentations, et on parle de pop culture, mais on n'a pas beaucoup parlé de musique. Et je pense que dans la musique aussi, alors personnellement, je pense que la musique m'a encore plus aidé que les mangas et tout ça, parce que, encore aujourd'hui, hein, quand on me croise dans la rue, je suis avec mon casque et je parle à personne. Mais voilà, non, la pop culture, je suis en train de devenir émotif, putain.
C'est sensible.
La petite larme, la ruchette.
La pop culture m'a beaucoup aidé pendant mon développement, que ce soit en tant qu'ado, qu'en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, parce que comme je l'ai dit la dernière fois quand je parlais du jeu de rôle, je pense que le jeu de rôle à une époque m'a sauvé la vie, vraiment, tu vois, et que c'est chaud. Et du coup, bah, pour la suite, parce que je me rends compte que, mine de rien, on travaille tous les trois maintenant dans le monde de la pop culture. Fadi, t'es dans la radio. Bon, nous, on est chômeurs, mais on essaye de...
chômeurs dans la pop culture.
Mais on essaye de travailler dedans. Et du coup, est-ce que vous pensez que cette attache que vous avez du coup justement aux jeux vidéo, au manga ou à la musique, vous seriez là aujourd'hui, vous auriez travaillé dans la radio, ou tu serais devenu streamer, ou tout simplement on voudrait travailler dans la communication, et notamment peut-être ou dans le milieu de l'édition?
Pas du tout, je pense pas. Je pense que j'aurais suivi un cursus classico-classique. Je me serais pas dit, vas-y, j'ai le courage, je peux tenter, je peux faire autre chose. Parce que je me rends pas compte si c'est grâce à toute la pop culture et ce que ça m'apporte et aux idéaux d'en parler, aux héros auxquels je me suis identifié. Mais je pense que ça a eu un impact quand même. Et quand je me suis réorienté, je pense qu'en vrai, je me serais dit, si j'avais pas eu de ce courage-là, je me serais dit, bon, bah, vas-y, je fais un taf dit classique.
Ouais.
Qui correspond pas à ma passion, en tout cas, donc un taf normal. Et puis voilà, et je fais carrière là-dedans, et puis fin, et ça se serait très bien passé. Mais je me serais pas dit, vas-y, je tente le métier passion, et puis on verra ce que ça donne, et au moins j'aurais tout tenter, quoi. Donc non, je pense que j'aurais pas du tout été la même personne.
Ok.
Et ben moi c'est plus compliqué que ça, parce que je n'arrive même pas à imaginer une vie sans jeux vidéo, en fait, parce que moi c'est vraiment les jeux vidéo et les animés. Je ne je ne vois pas ma vie sans... là, actuellement, j'ai une obsession pour deux jeux vidéo, Baldur's Gate 3 et Pokémon TCG Pocket. Je ne me vois pas vraiment vivre sans jeux vidéo, en fait, et je ne conçois même pas une vie sans pop culture, mais que ce soit de la musique, que ce soit des films, des jeux vidéo, des séries, des animés, des mangas, de la littérature, des livres, je ne vois pas. Alors, parce que c'est tellement ancré maintenant dans notre société que je peux même pas imaginer ce que j'aurais fait sans tout ça, en fait. Donc je peux pas répondre à cette question honnêtement, juste que je vois pas ma vie sans pop culture, quoi.
En fait, si t'enlèves ça, il reste quoi?
Mais c'est ça.
Le pâté aux prunes.
Voilà.
Super.
Pâté aux prunes, mais pas du reste. Hein. Non, mais c'est clairement ça. Mais du coup, après, le truc, c'est qu'on se rend peut-être pas compte aussi que une vie sans pop culture, parce que notre entourage est baigne dedans tout le temps. Mmh. Mais je me rends compte qu'il y en a beaucoup de notre âge qui n'en ont pas beaucoup eu. Bon, je suis pas dans le jugement, mais vas-y, il me rend triste. Mais je suis surtout en train de voir l'heure, et du coup, on va bientôt être pris par le temps. On va du coup.
Je peux rajouter un dernier truc.
Vas-y, rajoute, on a encore 2 minutes.
Ok, très vite, parce que c'est ouais. Hyper intéressant ce que tu as dit là. De toute façon, on pourrait en parler des heures.
Ouais.
Qu'il y a une autre partie de la population qui n'a pas grandi avec la pop culture.
Oui.
Et il n'y a pas forcément d'équipe pop culture. Enfin, si, il y en a pop culture, pas pop culture, mais il n'y a pas de meilleure équipe. Parce que ceux qui n'ont pas grandi avec la pop culture ont eu d'autres connaissances que nous, on va avoir plus tard et qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais à notre niveau, il y a un écart de connaissances et de savoir qu'on n'a pas. Et on est normalement amené à se rejoindre au même endroit plus tard. Donc c'est pour ça que l'union fait la force, parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Oui. Par contre, nous, on est des boss dans notre domaine, et ceux qui n'ont pas grandi avec la pop culture, avec de la culture plus terre à terre, plus classique, enfin qui n'est pas de la pop culture, quoi, ils ont autre chose que j'ignore. Alors je sais pas ce que connaissent les gens.
Je sais pas ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes.
Après, pour moi, ceux qui n'ont pas accès, malheureusement, à la pop culture, ce sont peut-être des personnes qui sont peut-être un peu plus isolées ou des choses comme ça. Et du coup, je me dis peut-être qu'ils ont, d'autres choses. Ils profitent de la nature, de ce que leur offre le monde.
Oui, la nature.
Mais, oui, c'est vrai. Les moments en famille.
Les moments familiaux. Juste de profiter de la nature, etc. Plutôt que de passer des heures à jouer sur LOL. Non, je rigole.
Passer des heures sur LOL, je trouve que c'est un peu trop shamé à mon goût. Voilà, chacun peut faire ce qu'il veut.
Mais je pense que du coup, je vois pas personnellement ma vie sans, mais c'est pas pour autant que je vais juger une personne qui n'est pas ancrée dans la pop culture. Et puis même, il y a des gens qui parfois s'intéressent aussi au final, et on peut leur faire découvrir des choses aussi, et donc c'est intéressant pour ça. Donc voilà, c'est
non. Ok, je rebondis là-dessus, et oui, t'as raison, en fait au final on se rejoint tous. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de pop culture qui au final on commence à leur parler. On les accepte enfin.
Ça y est, on les tolère. Attention.
Avec de la lotion hydroalcoolique, oui, mais on les tolère quand même. Hein.
Mais en vrai, c'est une vraie question, et j'ai jamais posé la question aux personnes qu'on connaît qui n'avaient pas ça, mais je me demande ce qu'ils faisaient, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient en mode full soirée, tout ça. Mais voilà. La dernière chose que je dirais, parce que je vois l'heure et qu'il va falloir qu'on rende bientôt l'antenne, c'est que. Personnellement, je vois bien le fait qu'aujourd'hui, la pop culture soit quelque chose de beaucoup plus accepté qu'avant et beaucoup moins shamé qu'avant. Certaines personnes râlent parce que c'est devenu mainstream. Ces personnes-là sont les derniers des cons. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Si vous n'êtes pas d'accord, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous.
Je partage son sel.
Mais moi aussi, pour le coup, on est trois, peut-être trois salés, trois aigris. Mais effectivement, heureusement que la pop culture est accepté maintenant.
Oui. Et du coup, sur ces belles paroles, on vous souhaite une très très bonne fin de soirée. On va vous laisser sur du coup la musique Guren de Naruto Shippuden. Et voilà. Merci Fadi d'avoir été encore là. Sache qu'on a rejoué ton titre de roi de la pop et personne ne l'a gagné.
Ça c'était à l'émission d'avant,
mais c'est pas grave. on vous laisse. Le mot de la fin, c'est des bisous de tout le monde et portez-vous bien. Un mot de la fin pour les autres.
Bisous et encore une fois, bonne année à tous et profitez bien.
Bonne année à tous et puis profitez bien et jouez aux jeux vidéo.
Oui.
Et regardez des mangas et des séries.
Des bisous.
Radio G 101.5 FM.